centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
La Nouvelle-Calédonie a de nouveau la fièvre.
Je crois un canac sous-préfet, il y a un canac magistrat, il y a quelques canacs professeurs. C'est le long peine prolétariat.
En Nouvelle-Calédonie, il y a une course de vitesse entre la justice et la violence. Cette analyse, on la voit à pire sens.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Certes, nous n'y avons guère été attentifs ces derniers temps. Mais voici que dans peu de semaines, le destin de la Nouvelle-Calédonie va imposer à la première page des journaux l'importance de ces enjeux. Puisque le 4 novembre prochain, un référendum va y décider de ses relations avec la métropole, avec l'éventualité d'une complète indépendance. Certes, cet archipel du Pacifique est de dimension modeste, deux fois seulement le territoire de la Corse. Certes, il est géographiquement à grande distance de Paris, à 16 000 km. Certes, on n'y dénombre que 300 000 habitants à peine. Et pourtant, rien n'est vraiment étranger, ni complètement lointain de ce territoire français d'outre-mer, qui a imposé par intervalle, avec une grande force, son importance économique, religieuse, symbolique peut-être, et en somme morale et civique, au regard et aux préoccupations de sa métropole. Ce fut le cas, entre autres, lorsque Napoléon III en prit possession pour la France en 1853. Le cas lorsque le régime de l'ordre moral, celui des Versaillais, y déporta 4000 communards et lorsque, quelques années plus tard, la République les amnistia. Le cas lorsque, au temps de la première cohabitation, en 1988, le drame des morts de l'île d'Ouvéa prit sa place à la fois dans l'émotion collective et dans les querelles électorales. Ces multiples moments d'intérêt, bien qu'il fût à éclipse, montrent assez que cette petite terre des antipodes a installé sa présence dans la conscience nationale d'un pays, le nôtre, qui fut à la fois celui de la lumineuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen et celui des heures sombres de la colonisation. Je vous propose donc, en contribution aux commentaires qui vont entourer le prochain scrutin, une heure de réflexion sur les difficultés et les espoirs d'un vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie, sous la lumière de l'histoire. Je me réjouis d'avoir devant moi Michel Napels, anthropologue et historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche au CNRS, qui est un des meilleurs connaisseurs de cette terre et de ses habitants. Il y a consacré, durant de longs séjours, durant plus de 20 ans, beaucoup d'attention scientifique et aussi beaucoup d'empathie. Nous allons donc l'écouter. Et pour commencer, je vous propose quelques extraits du préambule de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998.
Lorsque la France prend possession de la grande terre que James Cook avait dénommée Nouvelle-Calédonie le 24 septembre 1853, elle s'approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d'Europe et d'Amérique, elle n'établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Or, ce territoire n'était pas vide. La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés Kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans différentes formes de création. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine. Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de populations dans lesquelles des clans Kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.
Michel Nappels, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
C'était donc un extrait, des extraits du préambule de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 que j'ai emprunté à l'émission Grande Traversée consacrée à la Nouvelle-Calédonie sur France Culture le 22 août 2008. Il me semble que ce texte sonne d'une manière assez originale, en tout cas du point de vue de la longue durée.
Il me semble que dans l'histoire coloniale française, ce texte est effectivement d'une extraordinaire originalité. Parce qu'il reconnaît que le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et en particulier avec la population originaire de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, est lié par la relation coloniale d'une manière très étroite. C'est le 24 septembre 1853, il y a exactement 165 ans que ce territoire a été colonisé et le texte de l'accord de Nouméa règle depuis 20 ans un processus de décolonisation du terme duquel nous approchons.
C'est lui qui a prévu le référendum qui va se tenir dans quelques semaines.
Exactement, le 4 novembre.
Alors j'ai lu, Michel Nappels, dans un de vos écrits, dans une interview que vous aviez donnée, que vous évoquiez ce que Wittgenstein appelle des airs de famille entre le 19e et le 20e siècle, tout en vous méfiant, disiez-vous, des causalités et des continuités. Concordance des temps, cela nous donne autorité pour revenir loin en arrière, non ?
Effectivement, j'ai essayé dans mon ouvrage « Conjurer la guerre », qui est centré sur une région rurale de la côte est de la Grande Terre, de montrer, à partir de la question de la violence rurale, de montrer les rapports qui peuvent exister entre guerre précoloniale, guerre coloniale, situation de violence au moment des événements, situation de conflits locaux aujourd'hui, mais à partir de la petite échelle de la vie villageoise dans une région rurale.
Vous parlez de l'est de la Grande Terre, peut-être pourriez-vous nous rappeler en termes géographiques ce que représente la Nouvelle-Calédonie à partir de cette pièce centrale qui est le Caillou, la Grande Terre, et puis les îles Loyauté qui sont à l'est.
Exactement, la Nouvelle-Calédonie est un archipel composé d'une grande île principale, la Grande Terre, à peu près 400 km de long, 50 km de large, partagée par une chaîne de montagnes pas extrêmement haute mais bien raide, définissant des vallées pentues.
Différentes des deux côtés.
Oui, la côte ouest est une pénéplaine avec un piémont beaucoup plus utilisable en termes d'agriculture européenne. La côte est définit des vallées beaucoup plus découpées qui impliquent des systèmes agraires plus complexes dont les Kanaks ont été avant la colonisation des grands spécialistes en développant des systèmes d'irrigation en terrasse et de billons pour la culture de tubercules particulièrement sophistiqués.
Alors les îles Loyauté dans cet archipel comptent aussi du côté oriental.
Exactement. Ouvéa, Lifou, Marais, les trois îles Loyauté constituent des terres importantes, de grandes îles également, bien qu'elles soient beaucoup moins peuplées. Et puis au nord, l'archipel des Bélèpes, au sud, l'île des Pins, et puis de petits îlots qui ont été peuplés, qui le sont plus aujourd'hui, constituent cet archipel.
Alors puisque nous allons réfléchir à la possibilité d'un vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie, il faut bien sûr revenir loin en arrière, il faut revenir au XVIIIe siècle, lorsque les Européens vont découvrir une culture qui était originale, qui était millénaire. C'est l'arrivée de James Cook en 1774, qui a découvert la Grande Terre et qui a ignoré d'ailleurs l'existence des îles Loyauté.
Oui, James Cook a parcouru la côte est de la Grande Terre et fait rentrer dans l'histoire européenne un espace qui était peuplé par des êtres humains, par des océaniens, depuis plus de 3000 ans. Espace à la fois peuplé par des océaniens, mais inséré dans des réseaux d'échanges et de communication entre différents archipels.
Donc environ 1500 ans avant notre ère.
Oui, exactement. La découverte de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans l'immense mouvement de découverte et de peuplement de l'Océanie. Après des premières implantations humaines très anciennes, 40, 50 000 ans en Australie et dans ce qui est aujourd'hui la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à partir d'il y a environ 4000 ans, 5000 ans peut-être, un immense mouvement en provenance du sud-est de la Nouvelle-Guinée peuple progressivement ce qui constitue aujourd'hui les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, puis la Polynésie centrale, Wallis et Futuna, Fidji, Samoa, puis toute la Polynésie, allant jusqu'à Hawaï, la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, un mouvement extraordinaire de peuplement en pirogue à voile, avec des capacités de navigation et un sens de l'aventure tout à fait époustouflant.
La Terre était vide avant 1500 avant Jésus-Christ, on ne le sait pas.
Elles étaient vides d'êtres humains. En tout cas, on n'a pas la moindre trace ni archéologique ni linguistique pouvant présumer d'un peuplement antérieur à ce grand mouvement de population qui est vraiment très bien décrit et très attesté par les archéologues.
Alors quand James Cook arrive, la population de ce qu'il va appeler la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il lui paraît que le territoire ressemble à celle-ci, cet ensemble humain est en fait divisé, notamment d'un point de vue langagier.
Exactement. James Cook n'a pas fait un inventaire complet du pays, puisqu'il s'est contenté de parcourir la côte est. D'autre part, ses interactions avec les Kanaks transitaient d'une manière qu'on connaît pas exactement, par des médiateurs polynésiens qui parlaient des langues plus proches des langues kanaks, mais qui sont pourtant pas des langues kanaks.
Alors comment parlaient-ils entre eux? Comment pouvaient-ils être interprètes truchement s'ils ne parlaient pas la même langue?
J'imagine par une combinaison de tentatives de vocabulaire, de gestes, de constitution d'un premier lexique, ça a dû être une aventure linguistique extraordinaire. Ce qu'on sait, c'est que à la fin du 19e siècle, les premiers inventaires linguistiques ont été établis et à ce moment-là, 30 langues différentes, certaines étant par ailleurs dialectalisées, mais 30 langues différentes étaient parlées, organisées en différentes familles de langues, mais opposant des langues tonales au nord et au sud de la Grande Terre à des langues non tonales au centre, certaines pouvant être proches comme le français, l'espagnol, l'italien, d'autres étant plutôt comme le français, le russe, voire plus loin. Donc
tonal, cela veut dire que, comme en chinois, suivant la manière dont on prononce, les mots ont des sens différents.
Selon que les voyelles sont prononcées d'une manière montante, descendante ou stable, une même syllabe peut avoir deux sens, trois sens tout à fait différents.
Et je comprends que si vous avez choisi d'établir vos recherches dans la commune d'Oyilou, donc sur la côte orientale, c'est parce que vous aviez été précédé par un pasteur, le pasteur Lennart, qui était aussi un anthropologue.
Effectivement, le choix d'une région d'enquête pour un anthropologue en Nouvelle-Calédonie suppose un investissement linguistique dans ces langues difficiles. J'ai bénéficié de l'existence d'une grammaire et même de plusieurs grammaires et de vocabulaire ou de dictionnaire établi dans la région d'Oyilou, d'abord par le pasteur Lennart et ensuite par Jacqueline de la Fontinelle, une linguiste ultérieure. Le parcours de Maurice Lennart a été tout à fait extraordinaire, venu essentiellement pour convertir les Kanaks et implanter le protestantisme, alors que la Grande Terre était plutôt une terre de mission catholique, a progressivement, sous l'influence de Lucien Lévy-Brulle et Marcel Mauss, développé un questionnaire ethnologique et constitué des archives écrites en langue de Wailou par ses élèves pasteurs.
Alors remontons plus loin en arrière, si vous le voulez bien. Je vais vous faire entendre un texte de Monsieur de la Billardière, qui est un botaniste français, qui est venu en 1793, donc quelques années après James Cook, en Nouvelle-Calédonie. C'est un texte qui est lu par Jean-François Lalle le 24 septembre 1953 sur la radio d'État. C'est à l'occasion du 100e anniversaire de la prise de pouvoir des Français sur l'archipel en 1853.
Écoutons dans leur charmante spontanéité les impressions de la Billardière, compagnon d'Entrecasteaux, l'un des premiers Français qui, en avril 1793, abordèrent le rivage de la Nouvelle-Calédonie. Comme tant d'autres après lui, il fut frappé par certaines similitudes entre l'île et la métropole.
29 avril, expédition à l'intérieur et le long de la côte. Nous trouvons un oiseau ressemblant à une pie. Nous le dénommons pie de la Nouvelle-Calédonie. Le bec est un peu plus rugueux à l'extrémité de chaque mandibule et d'une couleur noirâtre de la racine jusqu'au tiers de la pointe. Le reste est jaunâtre. Nous remarquons que la population se composait de femmes, de vieillards et d'enfants. Les hommes étaient probablement partis en guerre. Dans un grand village, nous fîmes la rencontre de gens de la montagne, parmi lesquels nous en reconnûmes un qui était venu à bord. On nous informa que c'était un chef de grande distinction, nommé Aliki. Nous l'invitons à déjeuner. Nous gravissons une montagne vers le sud. Après avoir traversé les plantations de cocotiers et de bananiers, nous arrivons à la maison d'Aliki. Elle était entourée d'une nouvelle espèce de figuier. Le fruit de cet arbre est mangé par les naturels après avoir été chauffé dans une marmite en terre pour en enlever l'amertume. Il pleuvait fort. Les indigènes ne paraissaient pas s'en inquiéter. Ils étaient très aimables. L'un même portait une caisse très pesante qui contenait nos spécimens.
Aliki, Michel Nappels, dont il est question ici, c'est le chef, si j'ai bien compris.
Voilà, Aliki, c'est un terme polynésien qui signifie chef. C'est probablement donc pas le prénom de cette personne, mais la manière dont les interlocuteurs polynésiens des navigateurs français s'adressaient aux notables Kanak. Cette archive est très intéressante, elle témoigne du mouvement d'exploration des Lumières, dont Bougainville, Cook sont des reflets éminents. Le voyage d'Entrecasteaux s'inscrit dans le même mouvement historique d'exploration où l'intérêt encyclopédique, savant, combine les préoccupations naturalistes et les préoccupations ethnologiques, sachant que l'arrière-plan politique de concurrence dans la maîtrise de l'espace et dans la possibilité d'une prise de possession ou de prise de contrôle des territoires, d'exploration de leurs richesses potentielles est sous-jacente à ces grandes expéditions.
Est-ce qu'il y a déjà, on n'en a pas tout à fait le sentiment, un désir d'exploitation économique? Il y a une forme de bienveillance un peu paternaliste dans ces récits de voyage?
Oui, de toute façon, on a pour chacun de ces voyages une multitude de sources entre les carnets des officiers, ceux des naturalistes qui accompagnaient les officiers, ceux des dessinateurs, et chacun a sa propre perspective, son propre centre d'intérêt. Cook avait noté le potentiel minier de cette terre découpée. Et
Déjà. Avant l'exploitation actuelle du nickel ou naguère de l'or.
Bien avant, l'exploitation du nickel prendra place un siècle plus tard, un siècle après Cook. Disons que l'intention politique était certainement pas présente sur les bateaux. Néanmoins, l'histoire des sciences a pu nous montrer que ce moment était un moment où l'expansion du savoir accompagnait une volonté de contrôle et une interrogation sur le devenir politique de ces espaces.
D'un point de vue économique, dès la fin du XVIIIe siècle, on voit des baleiniers qui commencent à s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, puisque auprès des côtes, les baleines à bosse remontent durant tout l'hiver austral.
Oui, la première moitié du XIXe siècle est une période de nombreux contacts entre Européens et Kanaks, sous la forme d'entreprises commerciales où les baleiniers d'abord, puis les centaliers interviennent dans la région pour exploiter des ressources naturelles, les baleines et le bois de santal. Et c'est notamment avec le commerce santalier que les Kanaks vont rentrer dans des rapports commerciaux directs avec des entrepreneurs britanniques, australiens, et qui, pour certains d'entre eux, s'installeront sur la Grande Terre avant même la prise de possession par les Français.
Et on commence d'apercevoir les effets sur la civilisation kanak dès ce moment-là, et peut-être déjà quelque peu ravageurs.
Il y a plusieurs aspects à ces effets du contact. Le premier est l'importante dépopulation, liée très probablement, comme dans de nombreuses autres situations de contact en Océanie et aussi en Amérique, à la circulation de microbes, de virus contre lesquels les Kanaks n'étaient pas protégés.
Comme les désastres d'Amérique du Nord, exactement.
Oui, il y a des discussions entre archéologues sur la Nouvelle-Calédonie pour mesurer l'ampleur de cette dépopulation, mais on est dans une fourchette qui va entre le moment de la prise de contact par Cook et le plus bas niveau de la population kanak vers 1920. On estime la baisse de la population entre 70 et 90%. Donc ça, c'est un premier aspect qui est évidemment extrêmement significatif.
Très impressionnant.
On a du mal à imaginer l'ampleur des transformations sociales que ça implique. On sait en Europe l'importance des effets sociaux de la Grande Peste qui a fait perdent peut-être un tiers de la population européenne.
1348.
Là, 49. On est dans des échelles, alors sur une période un petit peu plus longue, mais on est dans des échelles de transformation démographique qui sont beaucoup plus importantes.
Et qui d'ailleurs, du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire la cohabitation entre les différentes composantes humaines de la Nouvelle-Calédonie, ça a compté beaucoup par rapport, ça compte toujours beaucoup par rapport aux équilibres jusqu'au à la question des votes aujourd'hui.
Les Européens, au XIXe siècle, ont pu penser, en tout cas, ont beaucoup dit, dans un langage qui était celui du darwinisme social, que les Kanaks étaient en train de mourir, que le peuple Kanak était en train de disparaître et que les Européens seraient destinés à dominer cet espace.
D'ailleurs, plusieurs des missionnaires qui arrivent sont accueillis par des administrateurs qui leur disent « Vous perdez votre temps puisque prochainement il n'y aura plus de Kanaks ».
C'est ce que le maire de Nouméa a dit au pasteur Lénard quand il est arrivé, effectivement.
Et là, nous sommes au début du XXe siècle avec le pasteur Lénard. Peut-être faut-il noter que très vite, il y a eu, entre les missionnaires qui sont arrivés comme d'habitude avec les explorateurs, ou juste après, entre les catholiques et les protestants, une concurrence souvent féroce.
Les missionnaires catholiques français s'installent dans les années 1840 au nord de la Grande Terre, avant même la prise de possession, et ils ont certainement eu un rôle, une influence pour la prise de possession par le Second Empire. Leur proximité avec leur pouvoir, avec le pouvoir français, a certainement contribué à la prise de possession dans une époque où des évangélistes océaniens anglophones s'installaient sur les îles Loyauté. Un certain nombre de personnes ont pu penser qu'une volonté d'expansion britannique demeurait, et la prise de possession à ce moment-là a été décidée.
Il faut dire que ces années 1840 sont celles d'une très violente concurrence du côté de la Polynésie entre protestants anglais et missionnaires catholiques français. C'est le moment où l'affaire Pritchard, c'est un de ces missionnaires anglais, est sur le point de provoquer une guerre entre le Royaume-Uni et la France.
Voilà, et dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle, il y aura de nouveau des escarmouches, notamment dans ce qui est devenu ensuite les Nouvelles-Hébrides, puis le Vanuatu, avec ce statut très particulier de condominium franco-britannique, très singulier aussi dans l'histoire coloniale, témoignant de cette rivalité.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, on sent en Nouvelle-Calédonie une, je dirais pas une fracture, mais quelque chose qui sépare ces deux communautés, ceux qui sont catholiques et ceux qui sont protestants? Est-ce que c'est un des éléments de l'échiquier compliqué?
Alors, l'arrivée du pasteur Lénard en 1902 permet précisément de transformer la situation, puisqu'un missionnaire protestant, mais français et francophone, s'installe sur la Grande Terre et permet aux deux religions de coexister sans qu'elles incarnent une rivalité franco-britannique. Aujourd'hui, bien sûr, dans le monde kanak, il y a des protestants et des catholiques, et parfois ces identifications religieuses correspondent à des rivalités familiales ou à des histoires locales importantes. Mais disons qu'à l'échelle politique plus générale du territoire, il n'y a pas de rivalité significative. Le spectre d'une influence anglophone ou de la volonté d'hégémonie australienne, parfois agitée, ne correspond à aucune réalité. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient kanaks ou pas, sont tous absolument francophones et entretiennent des liens historiques privilégiés avec la France.
Cela dit, les évangélisations se heurtent forcément à des difficultés et à des incompréhensions dans ce 19e siècle, d'après ce que nous rapportent les témoins. Par exemple, on voit un kanak qui dit au père qui est venu lui administrer l'extrême onction « Pourquoi veux-tu me tuer ?»
Il est sûr que la conversion ne s'est pas faite par adhésion à un credo, n'a pas été une idée intellectuelle qui s'est transmise, mais a d'abord été un phénomène pragmatique, notamment face à cette réalité vécue par les Kanaks de la dépopulation et très probablement de la détresse qui en résultait. À partir de là, une certaine difficulté a été liée au geste. Quand un soin administré par les missionnaires ne permettait pas la guérison, peut-être s'agissait-il du point de vue des Kanaks d'une manière d'achever le malade. Inversement, peut-être que la conversion a d'abord été le souhait d'obtenir la puissance d'une protection qui semblait permettre aux Européens de vivre plus longtemps que les Kanaks en Nouvelle-Calédonie.
Nous parlons, Michel Nappels, des Kanaks. Peut-être faut-il dire un mot de cette appellation.
Oui, ce terme est de nouveau un terme polynésien, issu de la langue des îles Hawaï. Kanaka signifie être humain. Et c'est un terme qui a servi au XIXe siècle à désigner toutes les populations de l'ouest de l'Océanie, la partie qu'on appelle la Mélanésie, depuis la Nouvelle-Guinée, en passant par les Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Et c'était un terme, à l'époque, très péjoratif. Il demeure péjoratif en allemand aujourd'hui, où Kanak est une insulte raciste. Dans le vocabulaire colonial du XIXe siècle, français également, c'était un terme très péjoratif. Les choses se sont transformées dans les usages coloniaux au XXe siècle, où le terme mélanésien, le terme indigène, le terme autochtone ont été mobilisés, jusqu'au moment des revendications indépendantistes, où les indépendantistes kanaks ont décidé de retourner le stigmate et de se réapproprier un terme méprisant en disant « effectivement, nous ne sommes pas comme vous, nous sommes kanaks, nous sommes fiers de l'être et nous sommes unis dans notre revendication ».
Il y a un moment important, en tout cas dans la mémoire collective des Français, c'est le temps où les communards sont transportés jusqu'en Nouvelle-Calédonie. En fait, il y a trois catégories de personnes qui sont envoyées et qui vont constituer la Nouvelle-Calédonie un temps comme une grande colonie pénitentiaire. Il y a les relégués, ceux qui ont commis toute une série de petits méfaits dont on veut se débarrasser. Il y a les déportés, qui sont les communards et les kabyles, on l'oublie quelquefois, et puis les transportés de la longue peine. Et pendant des décennies, la Nouvelle-Calédonie devient une sorte de vaste bagne, vue en tout cas depuis la métropole.
La Nouvelle-Calédonie est effectivement constituée comme une colonie de peuplement, ce qui est une originalité dans le paysage colonial français, avec bien sûr l'Algérie, qui est également une colonie de peuplement. Et c'est une colonie de peuplement en premier lieu pénitentiaire. En 1863 arrive le premier convoi de bagnards et pendant tout le 19e siècle, la population pénale sera plus importante que la population libre européenne.
Les administrateurs ayant souvent eux-mêmes conscience que peut-être c'est une manière de peupler, qu'une fois la peine achevée, on pourra trouver dans cette population des blancs qui viendront compenser le nombre des Kanaks.
Effectivement, un nombre important de condamnés sont condamnés à des peines de doublage, c'est-à-dire qu'après la peine d'emprisonnement ou de maintien dans des colonies pénitentiaires rurales, les libérés n'ont pas le droit de retourner en métropole et constituent donc une population flottante dans un premier temps qui, dans certains cas, obtient des concessions rurales et forme la base d'un colonat rural destiné à demeurer.
Entre 1864 et 1897, on dénombre 20 000 condamnés à des longues peines, 4 000 relégués et 4 000 déportés, soit kabyles, soit communards. Une des plus célèbres demeure évidemment Louise Michel, la Vierge Rouge, dont je vais vous faire entendre la voix. Il me semble que cela s'impose. C'est une lettre à Victor Hugo qui date du 18 juin 1876 et qui est lue ici par Anne Canovas sur France Culture le 1er juin 2001.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannemet.
Pour Victor Hugo, Baie de l'Ouest, 18 juin 1876. Cher maître, voici quel est mon rêve en ce moment. Passer quelque temps à Bouraille pour terminer mon livre du bagne et aller également, pendant assez longtemps pour me rendre compte de la langue et des usages, dans une tribu kanak où notre influence ne se serait pas encore fait sentir. J'y commencerai une école. Aurais-je jamais la facilité, c'est-à-dire me laissera-t-on jamais aller jusque-là, je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on revenait jamais, ce dont je ne m'occupe nullement, je ne reviendrai pas sans cela. car on ne fait pas 6 000 lieues pour ne rien voir et n'être utile à rien. Au revoir, cher maître. Je vous envoie tout ce qui n'est pas éteint de poésie en moi. Louise Michel. Post-scriptum. Répondez-moi, cher maître, quoique je sois plus que jamais communeuse. Et prête à recommencer la lutte contre tout ce qui doit disparaître d'erreur et d'injustice.
On dit aussi que, je crois que c'est historique, que Louise Michel n'a pas voulu revenir avant que le dernier des déportés de la commune soit amnistié et retrouve le chemin de la terre natale. Il y a un ensemble de correspondances avec Georges Clemenceau aussi, où elle appelle celui-ci à faire la révolution. L'opposition en démocratie, en république, ça ne suffit pas.
Dans la colonie pénitentiaire qu'est la Nouvelle-Calédonie, les déportés sont les déportés métropolitains, communards, sont les plus singuliers et ceux qui sont à la fois les plus célèbres dans notre mémoire.
Henri Rochefort aussi.
Oui, exactement. À la fois les plus célèbres dans notre histoire et en même temps ceux qui ont laissé la trace la moins importante en Nouvelle-Calédonie, puisque les communards sont pratiquement tous rentrés. Et dans les communards, Louise Michel est certainement la plus singulière de tous et toutes, puisque c'est celle qui s'est le plus intéressée au monde kanak, puisqu'elle a rassemblé des contes et légendes kanak, qu'elle a enseigné à des kanaks et qu'elle s'est préoccupée jusqu'à la fin de sa vie de ce monde colonisé. En revanche, d'autres déportés, kabyles, eux vont faire souche en Nouvelle-Calédonie, et avec cette particularité singulière de l'histoire calédonienne que les Kabyles sont aujourd'hui désignés du terme d'arabe en Nouvelle-Calédonie et que les Arabes de Nouvelle-Calédonie sont une composante du monde européen de Nouvelle-Calédonie, de l'espace des colons de Nouvelle-Calédonie, notamment dans la commune de Bouraille qui est mentionnée par Louise Michel.
Le jeu se complique. Il faut aussi signaler que les communards, lorsque éclate une des premières graves révoltes kanak en 1878, ne prennent pas spontanément, pour la plupart d'entre eux, le parti des dits kanaks.
Effectivement, non seulement ils ne prennent pas le parti des kanaks, mais ils participent aux colonnes mobiles à côté de l'armée française, à côté des colons libres, à côté des déportés kabyles. Ils prennent parti contre la révolte kanak, partageant certainement une partie du cadre évolutionniste évolutionniste et raciste
darwinien
considérant les kanaks pour beaucoup d'entre eux comme des sauvages et dont ils avaient souvent peur.
Cette révolte est intéressante, il y a ce fameux chef Ataï qui incarne la résistance et qui d'ailleurs sera tué par un autre kanak et dont la tête a ensuite connu des tribulations assez sinistres, mais néanmoins révélatrices. Peut-être pouvez-vous, Michel Napals, nous en dire un mot.
Alors, d'abord, toutes les opérations militaires européennes, toutes les guerres coloniales au XIXe siècle, sont menées par une majorité de troupes auxiliaires kanak. Les guerres coloniales sont d'abord, ou aussi, des guerres de kanaks contre d'autres kanaks, les uns cherchant à manipuler les autres et à améliorer leur situation à l'occasion de ces conflits. Donc le fait qu'Ataï soit tué par un autre kanak est effectivement tout à fait habituel dans les guerres coloniales. Et sa tête, effectivement, a été envoyée au Musée de l'Homme, d'où elle a été recherchée pendant un long moment. Elle avait été perdue dans les rayonnages et ce n'est qu'assez récemment qu'elle a pu être retrouvée.
Quelle époque !
Et renvoyée en Nouvelle-Calédonie, non sans mal d'ailleurs, puisqu'il fallait savoir quelle famille allait prendre en charge les cérémonies de deuil et les cérémonies d'enterrement qui allaient suivre.
Oui, ces années, dernier tiers du 19e siècle est peut-être la période la plus sombre dans les relations entre ce qu'on est accoutumé d'appeler les Blancs et les Kanaks, avec les mises en réserve, avec la répression et avec le code de l'indigénat de 1887 qui prévoit travail forcé et impôt de capitation.
La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853 ne transforme pas du jour au lendemain ce territoire extrêmement éloigné de la métropole en petite France. Le contrôle étatique du territoire est très progressif et le cadre juridique de la présence française s'établit petit à petit. Effectivement, se dessine autour du projet de colonisation de peuplement, tel qu'il a été décrit par ma collègue historienne Isabelle Merle, se construit une structure ségrégative avec mise en réserve des Kanaks afin de libérer des terres de peuplement, d'abord pour les bagnards, ensuite pour des colons libres. Et à ce premier étage de ségrégation territoriale, c'est-à-dire de spoliation foncière et d'enfermement Kanak dans des réserves, articulé à une administration indirecte, c'est-à-dire par la représentation des réserves par des chefs qui sont les interlocuteurs des Français, s'ajoute à partir de 1887 le Code de l'indigénat, une variante de celui qui est appliqué en Indochine et en Algérie.
C'est le temps où les Kanaks sont réduits à une occupation de 8% seulement des terres.
Voilà, deux mouvements successifs de mise en réserve sur la Grande Terre conduisent à une spoliation foncière massive. D'abord en 1876, un premier mouvement en vue de l'expansion de l'exploitation minière met en réserve un certain nombre de Kanaks dans le centre de la Grande Terre.
C'est un des ressorts de la Grande Révolte de 1878.
Absolument, à quoi se combine une sécheresse extrêmement dure en 1877. Et dans un deuxième temps, à la toute fin du XIXe siècle, avec l'arrivée du gouverneur Feuillet et le souhait du développement d'un colonat libre...
Il appelle ça « fermer le robinet d'eau sale ».
Et effectivement, les convois de bagnards vont s'interrompre, même si les condamnés achèvent leur peine et resteront encore très présents dans le paysage social de la Nouvelle-Calédonie.
C'est aussi le temps où un géographe comme Augustin Bernard vient t'expliquer que il est hors de doute, je le cite, que les indigènes de la Nouvelle-Calédonie sont en voie de disparaître et qu'il faudra bientôt parler d'eux au passé. La vie civilisée, c'est notre sujet, cohabitation possible, la vie vivre ensemble. La vie civilisée, dit Augustin Bernard, et la vie sauvage semblent incompatibles sur le même sol. La Nouvelle-Calédonie présente même un phénomène assez curieux, que le climat convient mieux aux nouveaux venus qu'aux anciens occupants du sol, aux Européens qu'aux Kanaks. Là, on est en fantasmagorie ou pas ?
Ces formes de darwinisme social ont existé dans de nombreuses autres colonies. C'est le discours qu'on trouve dans les colonies allemandes d'Afrique du Sud-Est. C'est un discours qu'on trouve parfois dans l'Amérique, au moment de la dépopulation amérindienne. On est dans un cadre d'interprétation qui légitime le désintérêt total pour les populations colonisées et leur marginalisation complète. C'est évidemment tout à fait fantasmagorique et ça dit à quel point l'ancrage colonial ne s'est pas constitué initialement dans une volonté d'intégration, de civilisation. Ce n'est que très progressivement que d'autres logiques, disons républicaines ou assimilationnistes, interviendront.
La Seconde Guerre mondiale vient jouer un rôle très, très important. On sort d'une période d'assoupissement, comme disent les historiens de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous faire entendre un extrait d'une émission qui est consacrée au centenaire de la présence française. On est donc en 1953. Elle est présentée par Jean Leguével. Et vous allez voir le ton. Ce sont les propos du ministre de la France d'Outre-mer, Louis Jacquinot, qui sont ici rapportés.
La radiodiffusion française présente centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur Jacquinot, ministre de la France d'Outre-mer, avant son départ pour l'île, a bien voulu dégager pour nous la portée de ces 100 années de présence française en Nouvelle-Calédonie. Voici la déclaration du ministre.
Pour la première fois, un ministre de la France d'outre-mer quitte la France métropolitaine pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. Il ne va pas un peu retard puisqu'il s'agit d'aller présider les cérémonies émouvantes qui marqueront la célébration du centenaire de l'entrée de la Nouvelle-Calédonie dans la grande famille française. Il y a 100 ans, la France métropolitaine proclamait solennellement le lien juridique noué entre sa souveraineté et la grande île australe de la Nouvelle-Calédonie. L'acte officiel contenait en germe cette communauté qui unit aujourd'hui cette petite patrie à la grande. C'est pour commémorer cette date, si grande de conséquences lointaines, que le gouvernement de la République a désigné le ministre de la France d'Outre-mer pour apporter à travers le temps et l'espace aux populations calédoniennes l'assurance de son indéfectible sollicitude. Ce que je voudrais marquer à mon arrivée dans cette terre française, et y attester par le fait de ma présence, c'est l'unité de la France républicaine dans la multiplicité de ses aspects. Européens ou océaniens, il s'agit du même territoire, celui de la République. Là-bas, aux antipodes de l'Europe, au même titre par exemple que dans cette Meuse, dont j'ai l'honneur de présider le Conseil général, c'est partout la France. Depuis 100 ans, aujourd'hui comme hier, c'est toujours la France. La pensée française, selon les lois de l'esprit, défie le temps et l'espace. En quelques jours, en plusieurs heures, le représentant du gouvernement peut visiter la France australe comme il peut se rendre en Bretagne, en Alsace ou au Pays Basque. Mais l'événement du 24 septembre 1853 diffère profondément de cette commémoration du 24 septembre 1953. Il y a un siècle, la République adoptait la Nouvelle-Calédonie, je dirais presque pour sa beauté toute extérieure et physique. Elle affirmait des droits sur une terre. Nous savons aujourd'hui que ces droits comportent des devoirs réciproquement acceptés et que cette terre abrite des hommes, je veux dire des hommes libres, des citoyens français. C'est donc une fête de famille que nous célébrons tous ensemble, le centenaire de noces nationales, la confirmation d'un don mutuel, l'acte de volonté consciemment renouvelée d'unir deux héritages historiques et culturels en une communauté de destin indissolublement établie.
Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises, Michel Nappels. C'est aussi un temps où il n'y a pas encore de bachelier kanak. Le premier date de 1962.
L'entre-deux-guerres est encore un moment de très grande ségrégation. Et 1953, c'est précisément la période de pleine réorganisation du rapport colonial avec l'acquisition de la citoyenneté kanak. On est dans la suite de la Seconde Guerre mondiale, de la conférence de Brazzaville. En 1946, les règles administratives de l'indigénat ont été abolies. L'obligation de résidence dans les réserves pour les Kanaks a été abolie.
La Nouvelle-Calédonie a rejoint la France libre plutôt que beaucoup d'autres morceaux de l'Empire français.
Oui, la Nouvelle-Calédonie forme le bataillon du Pacifique où Broussard, Caldoche et Kanak participent à l'effort de guerre gaulliste. Et surtout, la Nouvelle-Calédonie constitue une base arrière de l'armée américaine dans la guerre du Pacifique, ce qui permettra à la société calédonienne de découvrir à la fois la puissance économique des États-Unis, mais aussi la position réelle des Noirs américains dans l'armée américaine. En 53, on est au plein milieu de cette transformation qui va permettre aux Kanaks d'accéder au suffrage universel complet en 1957. On est donc non pas au centenaire de la présence de la France républicaine en Nouvelle-Calédonie, mais on est au premier pas d'une citoyenneté réelle et si on veut républicaine en Nouvelle-Calédonie.
Donc il n'y a pas les deux collèges, par exemple, comme en Algérie à ce moment-là encore.
Dans ces premières années des années 50, il y a une hésitation importante dans les débats du Conseil général sur ce point, mais finalement, on débouche en 1957, après différents épisodes, vers un suffrage universel intégral avec un collège unique.
La gauche arrivant au pouvoir avec Mitterrand, cela donne quoi? Il y a un effort pour trouver une troisième voie, en fait, au début des années 80.
Le nouveau pacte républicain, si on veut, ou pacte colonial des années 50, débouche sur peu de transformations sociales. L'accès aux droits politiques des Kanaks les maintient dans une position de marginalité sociale économique d'une part et de minorité démographique au sein du corps électoral. de telle sorte que, à la fin des années 60, les premières élites intellectuelles et politiques kanaks vont donner naissance à un mouvement indépendantiste ancré sur une très forte revendication foncière dans les années 70.
C'est là qu'on voit le lien entre la revendication de souveraineté et la revendication foncière qui s'affirme.
Absolument. Les terres ont à la fois une signification économique, les Kanaks commencent à être très à l'étroit dans leurs réserves, mais d'autre part, ils ont aussi une signification culturelle. Il s'agit de retrouver les terres nommées, identifiées, parcourues, où les familles Kanaks habitaient avant la spoliation. Au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, un immense espoir chez les Kanaks apparaît d'obtenir effectivement l'indépendance, que leur droit de peuple colonisé soit reconnu. Et cet immense espoir sera suivi d'une indéniable déception, puisque la règle majoritaire qui s'applique lors des premiers référendums donne systématiquement la majorité à la population européenne anti-indépendantiste.
Cela évoque tout à fait la déception des Algériens indigènes au moment du Front populaire.
Oui, avec un corps électoral très restreint. Quand le corps électoral deviendra complet, évidemment, l'Algérie pourra devenir indépendante.
Mais la différence, c'est que les Kanaks sont devenus minoritaires par rapport aux autres composantes de la population.
Voilà. Ils ont été rendus minoritaires non seulement par ce mouvement de dépopulation qui s'est interrompu à partir des années 20, ils reprennent une croissance démographique significative à partir des années 20, mais aussi parce que l'État français, consciemment, prend conscience de l'intérêt stratégique de ce territoire en raison à la fois des essais nucléaires en Polynésie et des richesses minières en nickel et encourage une immigration résolue de populations originaires d'autres dom-toms, polynésiens, de Polynésie française, wallisiens et futuniens, réunionnais. C'est la circulaire Mesmer en 1972 qui s'adresse au secrétaire d'État Xavier Degnaud.
Texte très intéressant. À court et moyen terme, dit Mesmer, Premier ministre, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaire des départements d'outre-mer devrait permettre d'éviter le danger d'une revendication nationaliste des populations autochtones, appuyée par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du Pacifique. La revendication ne sera évitée que si ces communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire, c'est très clair.
Voilà, le différend colonial ne s'interrompt pas en 1946, puisque pendant les années 70, la question demeure posée.
Et après la déception des années 80-84, on arrive à ce moment dramatique, ce moment sanglant où l'aspiration à l'indépendance va aboutir au drame d'Ouvéa. Et c'est le moment où on voit émerger une personnalité aussi intéressante, aussi notable, aussi remarquable que Jean-Marie Djibaou, qui est le leader du jeune Front de Libération Nationale du Kanak Socialiste, qui est président du gouvernement provisoire, qui s'affirme en tant que tel et qui s'exprime, vous allez l'entendre, le 1er décembre 1984, dans les termes suivants.
Pour la République de Kanaky, pip pip,
ouais, ouais,
pip pip,
ouais,
pip pip,
ouais.
1853, notre pays avait flotté à balade le drapeau tricolore qui enlève à Kanaky sa souveraineté. Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le vert, symbole de Kanaky, le vert du pays de Kanaky. Le rouge, symbole de la lutte du peuple Kanak, symbole de notre unité, unité du FLNKS et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanaky avec sa constitution. Le bleu de la souveraineté. Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous. Rendez-vous de l'histoire du peuple Kanak. Merci au soleil. Merci à nos ancêtres. En tant que président du gouvernement provisoire, je salue l'emblème national de Kanaky. Et je déclare constituée le gouvernement provisoire de la République de Kanaky. Que Kanaky vive !
Figure majeure, Michel Napels, que celle de Djibaou qui sera quelque temps plus tard assassinée en mai 1989, mais qui à ce moment-là figure de grand interlocuteur pour tous ceux qui veulent s'efforcer d'apporter la paix dans ce territoire de Nouvelle-Calédonie.
Voilà, la période de violence qu'on appelle les événements entre 1984 et 1988 est certainement la plus connue de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Entre avril et mai 88, prise d'otages à la gendarmerie d'Ouvéa, 4 gendarmes sont tués, des otages sont pris, et au moment de l'assaut de la grotte entre les deux tours de l'élection présidentielle, 19 preneurs d'otages ou porteurs de thé, c'est-à-dire jeunes gens qui ravitaillaient la grotte, sont tués, certains après l'assaut, et 2 soldats français sont également tués.
Le ministre de l'Outre-mer, Bernard Ponce, le docteur Bernard Ponce, avait déclaré « Si les Kanaks bougent, nous leur serrerons le kiki », le 26 mai 86.
Voilà, des choses se sont rejouées d'une histoire coloniale française qui a souvent fait usage de la violence. C'est une opération de police qui est menée par des troupes de choc en mobilisant une loi de la période de la terreur. Enfin, c'est quand même une situation très singulière. Une année plus tard, au moment de l'anniversaire de cet assaut, dans la cérémonie de levée de deuil, Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene sont tués par Djoubé Liwéa, qui est tué à son tour. Cet assassinat ouvre la période de 30 ans dans laquelle nous nous trouvons. Après les accords de Matignon en 88, l'accord de Nouméa est signé en 98.
Matignon, il faut dire que c'est le grand mérite du gouvernement de Michel Rocard, Premier ministre, qui après avoir envoyé une délégation qui incarne catholicisme, protestantisme, franc-maçonnerie, etc. Cette délégation a permis de préparer la voie à cet accord avec Lafleur d'un côté et Djibaou de l'autre. Et puis, en effet, 10 ans de calme relatif. Comment cela s'explique? Les accords Matignon ont été finalement fructueux?
Les accords de Matignon ont commencé un mouvement de rééquilibrage social et économique qui était absolument nécessaire. Toutefois, il ne modifie pas la structure démographique générale du pays. Et le référendum qui est prévu au terme de ces 10 années allait déboucher à coup sûr sur la victoire des anti-indépendantistes et avec un risque indéniable de retour dans la période tendue des événements. C'est pour ça qu'une autre dynamique politique de transformation de la société a été négociée dans le cadre de l'accord de Nouméa, qui cherche à concevoir un processus de décolonisation par un transfert de compétences extrêmement importantes et la définition d'une citoyenneté calédonienne limitée, avec des corps électoraux limités, en vue de construire non pas une indépendance kanak, mais un destin commun ancré sur cette citoyenneté calédonienne, dans lesquels kanak et européens ou d'autres communautés installées de longue date en Nouvelle-Calédonie pourraient créer ensemble un pays.
Après les accords de Nouméa que nous évoquions en commençant, Michel Napels en a même été jusqu'à réformer la constitution française pour permettre cette évolution qui conduit au référendum à quoi nous allons assister.
Absolument. Le corps électoral du référendum est extrêmement spécifique et de très nombreuses personnes installées depuis, disons, 20 ans, 10 ans, 5 ans en Nouvelle-Calédonie en sont exclues puisqu'il s'agit de décider de l'avenir du pays à partir des intérêts des gens installés de longue date dans ce pays. Pas seulement le peuple colonisé, mais aussi toutes les populations qui, depuis longtemps, vivent dans ce territoire du Pacifique.
Avec un affrontement, en somme, entre deux légitimités, la légitimité historique et la légitimité démographique ou numérique.
Cette tension entre colonie et démocratie est effectivement présente. La dynamique du destin commun vise à en sortir. Il n'est pas sûr que les 20 années écoulées aient permis de réaliser entièrement ce projet, même si des transferts de compétences importants ont été établis.
Affaire à suivre, en somme.
À suivre, après les résultats du référendum et éventuellement des deux autres référendums qui suivront si l'indépendance n'est pas choisie dès maintenant.
Qu'est-ce qui va se passer pour le référendum ?
Dans 2 ans, puis dans 4 ans, si la réponse est non à l'indépendance, la question sera reposée. Si on sort de ces 3 référendums sans réponse, nous serons dans l'inconnu institutionnel le plus complet.
Eh bien, je vous réinviterai, Michel Nappels. Je voudrais rendre hommage à votre dernier ouvrage. Votre livre majeur, Michel Nappels, c'est le plus récent, s'appelle « Conjurer la guerre, violence et pouvoir à Wailou, en Nouvelle-Calédonie ». C'est votre village d'élection. Un livre qui est paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, votre maison, en 2013. Vous avez, chemin faisant, également salué le travail de Isabelle Merle. Son livre sur ces questions s'appelle « Expérience coloniale » au pluriel, « La Nouvelle-Calédonie de 1853 à 1920 », publié chez Belin en 1995. Il vient de sortir sur la table des libraires l'ouvrage de Frédéric Angleviel, qui est professeur à l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle « La France aux antipodes, histoire de la Nouvelle-Calédonie », paru chez Vendémiaire tout récemment. Et puis on peut aussi se référer à l'excellent petit ouvrage de la collection, la fameuse collection « Découverte Gallimard » d'Alban Bansa, « Nouvelle-Calédonie vers l'émancipation », la dernière édition est de 1998. Vous pourrez également trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références, vous le savez, des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour la réentendre éventuellement après le référendum. Samedi prochain, nous parlerons de la terreur et de sa trace de 1794 à 2018. Les terroristes ayant, comme nous savons aujourd'hui, ambivalence du terme d'ailleurs, une place importante sur notre planète. Je recevrai Jean-Clément Martin, grand spécialiste de la Grande Révolution, la Révolution française. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine, je cite, à une histoire des lieux de savoir disparus, de la bibliothèque d'Alexandrie, qui flamba, comme nous savons, jusqu'au Musée national de Rio, qui hélas flamba aussi. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Inès Barja pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour l'émission Affaires étrangères.